dans le genre de
Harry de B.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres.
Une émission de Géraldine Saratia.
Harry de B, est-ce que vous vous trouvez féminine?
Ouais. Ça va comme réponse courte, ça?
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Harry de B. Harry de B est danseuse, chorégraphe, militante queer, figure de la scène ballroom et voguing parisienne. On l'a vu beaucoup danser, par exemple, aux côtés de son ami Kiddy Smile. Alors cette culture ballroom, créée par les gays noirs de Harlem au début des années 80, Harry de B se la prend en pleine face au début de sa vingtaine. Elle est alors étudiante à Sciences Po, en Gender Studies, et elle décrit cette découverte comme un choc, puisque tout d'un coup, ses identités, algériennes, exilées, lesbiennes, queer, semblait s'articuler, se recomposer dans cette culture et dans cette danse de résilience, de redécouverte et de réaffirmation de soi. Alors devenue danseuse, Harry de B s'est spécialisée dans le walking, une cousine du voguing. C'est une danse très déliée, très narrative, avec de amples mouvements de bras, inventés par des gays latino-américains au début des années 60 aux États-Unis. Elle est également l'auteur d'une conférence dansée, Décoloniser le dance floor, qui interroge via le spectre du genre, de la race, de la classe, quelques-unes des danses telles que le twerk, la danse hip-hop, le crump. Elle en explique les origines, le sens, les appropriations qui en ont été faites au cours de l'histoire. Alors on va parler de tout ça ce soir, d'exil, de danse, d'identité, de Paris is Burning. C'est parti pour une heure dans le genre d'Harry de B.
Nova.
Dans le genre.
L'enfance.
Alors, j'ai grandi à plusieurs endroits. C'est assez complexe, mon histoire familiale, puisque je suis née en Algérie, donc dans les années 80. Je ne révélerai pas l'année, puisque le mystère plane autour de mon âge, et j'adore. Mais je suis née à Alger, du coup, j'ai grandi les premières années de ma vie à Alger. Et suite à la guerre civile, à la décennie noire, mes parents ont décidé de quitter l'Algérie, puisque c'était des intellectuels. Et du coup, ils avaient des fatwas contre eux, mon père surtout.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, votre père?
Ils étaient profs.
Ouais, vos deux parents.
Ouais, mes deux parents étaient et sont toujours profs, mais c'était considéré comme métier intellectuel et du coup métier à risque pendant la période de radicalisation des années 90. Et du coup, ils ont décidé de quitter l'Algérie pour la France. Et on est arrivé en Bretagne, on est arrivé à Rennes, du coup début des années 90.
Vous aviez quel âge, vous?
Moi, j'avais 3-4 ans.
Ah ben voilà, on sait votre âge alors.
Ouais, mais j'ai pas dit quelle année j'étais née. Non, j'étais petite, du coup j'ai vraiment grandi en France, quoi. Mais en étant née en Algérie, ce qui en fait conditionne plein de choses dans mon parcours et dans la lecture qu'on a de moi. Et du coup, ouais, j'ai passé pas mal de temps à Rennes quand j'étais petite. Et ensuite, mes parents se sont séparés et ma mère a déménagé en Vendée. Et du coup, j'ai passé 10 ans de ma vie en Vendée. Le gros drame, parce que la Vendée, c'est l'enfer.
Vous parliez de votre père au tout début, avec votre père qui était l'Algérie, qui était tous les deux intellectuels, votre père était prof. Si on parle de normes de genre un petit peu, avec votre regard d'aujourd'hui, votre père, vous diriez que c'était quel type d'homme par rapport au masculin?
Mon père, c'était un homme très viril et surtout très déplacé. C'est-à-dire que c'était un homme sans repère et qui essayait du coup de se reconstruire avec un exil politique qui l'a marqué à tout jamais. Enfin, il en parle beaucoup encore aujourd'hui, mais à demi-mot, il en parle dans ses chansons, parce qu'il fait pas mal de musique. Mmh. Et il en parle pas de but en blanc. Il n'en parle pas frontalement, mais il en parle beaucoup dans ses chansons. Toute sa musique ne parle que de son exil, ne parle que de l'Algérie, alors qu'il ne rentre plus en Algérie. Et du coup, cette espèce de perte d'identité qu'il a vécue en traversant la Méditerranée, c'est quelque chose, je pense, qu'il a aussi beaucoup marqué dans sa construction en tant qu'homme. Mmh. Il a joué, il a performé une virilité pendant plusieurs années. Je pense qu'il lui a valu justement de perdre ma mère, parce que c'est des conversations que j'ai moi en tant qu'adulte avec ma mère aujourd'hui, qui me dit qu'effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles elle est partie.
Masculinité trop classique, un peu macho.
Ouais, enfin, non, hyper macho, non, je pense. Ouais, hyper macho, sans détour, quoi. Je veux dire, les mecs cis sont ce qu'ils sont, même nos pères, nos frères. Mais du coup, ouais, il a performé cette masculinité Et ça l'a perdu, je pense. Après, il en est beaucoup revenu. Il a beaucoup changé depuis quelques années parce qu'il est tombé malade. Il a eu un cancer. Et sa maladie l'a énormément fait évoluer, notamment sur ces questions-là. Et notamment de mon travail militant à moi, féministe, puisque quand il est tombé malade, il m'a réintroduite dans sa vie. Parce que pendant des années, on n'était pas dans la vie l'un de l'autre du fait de mon identité sexuelle. Pour le faire court. Et voilà, je pense que l'arrivée de sa maladie et du coup la confrontation à sa mort potentielle a fait qu'il a complètement changé.
Il a fait un trajet, quoi.
Énorme et très rapide. Donc ça a été assez bousculant parce que du coup, moi, d'un seul coup, j'avais accès à mon père et puis à mon père tolérant, sympa, dans le soutien, qui regarde mes vidéos, qui écoute mes interviews, qui envoie même les articles qui sortent sur moi, etc., à ses collègues de travail, à ses amis. Quand j'ai eu un portrait dans les Inrocks, il a acheté genre 5 copies du magazine, ça servait à rien, mais il faisait juste le proud dad, tu vois. Et maintenant, il est super ouvert. C'est même lui qui me rattrape des fois sur des trucs féministes. Il connaît ma copine. On passe des Noëls ensemble. Enfin, il est très cool, quoi.
Et votre mère, alors, c'est quel type de femme, elle, par rapport au féminin ?
Ma mère, par rapport au féminin, c'est quelqu'un qui a grandi plutôt, elle, dans la bourgeoisie d'Alger. Donc rien à voir avec mon père, parce que mon père, il a une vie très, 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 très difficile, sans m'attarder sur les détails. Mais ma mère a une...
C'était un milieu social très différent.
Opposé. Mon père, il a vécu dans la rue pendant des années, et ma mère a vécu plutôt avec la tchitchi algéroise, donc c'est la petite bourgeoisie. Donc elle a eu un début de vie matériel plutôt facile, et ensuite elle s'est retrouvée, elle aussi, dans une perte de repères hyper forte due à l'exil politique et l'exil géographique, et elle a dû se reconstruire. Enfin, ils sont repartis de rien, en fait. Donc voilà, à 30 ans, je pense que c'était pas évident, et ils en portent les stigmates encore aujourd'hui. Et ma mère, c'est une femme très belle, qui était assez, assez coquette dans sa jeunesse, et assez coquette encore quand moi, je grandissais, mais qui, je pense, face à tout ce qu'elle a dû traverser, de séparation au pluriel, pas que de séparation avec mon père, mais de multiples séparations et symboliques et concrètes, elle s'est aussi un peu perdue et elle a pris moins soin d'elle, quoi. Après, elle aussi a fait un retour, pas au féminin, mais au féminisme plutôt, du fait de mon travail aussi qu'elle suit avec beaucoup de d'attention. Et c'est vrai qu'elle m'a dit récemment qu'elle avait appris beaucoup de choses à mon contact et du coup maintenant elle fait des sorties féministes, elle est outrée par le patriarcat, elle est outrée par l'homophobie, par le racisme. Avec ses collègues de travail, c'est toujours elle la grande gueule, c'est toujours elle qui va un peu call out les gens sur les structures de domination qui nous entoure et auquel je l'ai sensibilisé, disons.
Allez, on écoute un peu de musique. Un premier titre que vous avez choisi pour nous. C'est un titre qui va faire référence un petit peu à cette période dont on parle, de votre enfance.
Complètement même.
Bah, c'est les Spice Girls. Who do you think you are, sur Nova?
Yeah. Driving you.
Les Spice Girls, Who Do You Think You Are? Voilà, c'est un titre, Harry Debey, que vous écoutiez enfant, à votre arrivée en France. Vous aviez 9-10 ans à peu près quand vous êtes arrivé, quand vous avez quitté l'Algérie. Justement, la découverte de la France, c'était d'autres codes, c'était d'autres normes de genre aussi. Enfin, avec votre perception aujourd'hui d'adulte qui regarde de cette période-là, je veux dire.
Ah, j'étais beaucoup plus jeune que 9-10 ans quand je suis arrivée en France. J'avais 3-4 ans, mais j'écoutais les Spice Girls quand j'avais 10 piges. J'écoute encore beaucoup, beaucoup ce titre. Ma perception de la France, ça a été difficile. Ça a été très dur parce que voilà, mes parents n'avaient rien. Donc on a hyper galéré déjà matériellement. Et socialement aussi, parce qu'ils connaissaient personne. Et moi, c'est quelque chose que je ressentais. Enfin, voilà, je suis hyper sensible aux énergies, à ce qui se passe autour de moi et tout. Et du coup, ça a été difficile de se construire et de se reconstruire dans ce contexte-là. En termes de genre, évidemment, avec mon recul aujourd'hui et ma mise en perspective, je pense que j'en serais pas du tout où j'en suis aujourd'hui si j'avais grandi en Algérie. J'aime pas faire de relativisme culturel, mais effectivement, l'Algérie, c'est compliqué pour les questions de genre et pour les questions d'identité sexuelle. Je tiens quand même à rappeler que si l'homosexualité est pénalisée en Algérie, c'est suite au reste des lois coloniales françaises. C'était pas le cas avant la colonisation française. Mm-hmm. C'est très très important ça pour moi de le rappeler en termes de devoir de mémoire. Mais toujours est-il que c'est le cas. Donc voilà, l'homosexualité est criminalisée et effectivement les questions patriarcales et les questions de genre en Algérie sont très épineuses. C'est très difficile, par exemple, pour une femme seule d'avoir un appartement toute seule. Juste ça. Donc ça laisse imaginer le reste. Donc c'est clair que j'en serais pas là aujourd'hui dans ma déconstruction du genre et dans l'affirmation de mon identité sexuelle et de genre et féministe, etc. Si j'avais grandi en Algérie, clairement.
Et alors vous, vous étiez quel type d'enfant ?
Oh là là, j'étais insupportable. Alors déjà, en tant qu'adulte, je parle beaucoup, mais en tant qu'enfant, je parlais encore plus et j'avais une voix... très haut perché, hyper aigu, et je pensais très sincèrement que j'étais un adulte et que j'étais capable d'avoir des conversations avec des adultes, mais c'est parce que voilà, en tant qu'enfant déplacé, il y a plein de choses qui ont bougé différemment. Pour moi, j'ai pas eu une enfance normale et j'ai pas eu une enfance tranquille. Et c'était, enfin, ni une vie tranquille d'ailleurs, mais voilà, l'enfance, c'est le moment où on se construit et je me suis construite dans le déchirement, enfin dans plusieurs déchirements. Et du coup, bien sûr, j'ai grandi plus vite que mon âge, mais ça ne me rendait pas non plus capable d'avoir des conversations avec des adultes, mais j'en étais intimement persuadée, donc je faisais chier les adultes tout le temps pour avoir des conversations hyper deep avec eux, et je faisais plein de spectacles aussi. Et il fallait absolument que les adultes regardent les spectacles. Oui. Donc voilà, je faisais plein de comédies musicales, je faisais plein de shows et tout ça, notamment sur les Spice Girls.
Vous positionniez comment, vous, justement, par rapport au féminin, par rapport à la puberté, par rapport au fait de devenir une jeune femme? Ça a été une expérience qui a été facile pour vous, compliquée? Vous étiez comment par rapport à ces codes-là, vous?
Non, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que je n'avais pas très envie d'être une fille. Je chantais déjà que c'était la merde.
Pourquoi?
Parce que c'était chiant d'être une meuf. Même si là, jamais j'aurais envie d'être un mec cis. Mais c'est quand même une putain de malédiction, quoi. Enfin, le sexisme, le patriarcat, c'est quand même épuisant et c'est quotidien. Ouais. Et je pense que c'est pas prêt de changer.
Mais donc, adolescente, vous sentiez que c'était, que c'était compliqué,
ouais,
que
instinctivement.
C'était dangereux, entre guillemets, ou pas.
Enfin, ouais. Instinctivement, et je pense du fait que j'étais à l'intersection, du coup, bah, littérale, du racisme et du sexisme, puisque, même si je le pensais pas comme ça à l'époque, bien entendu, puisque j'étais une meuf et que j'étais algérienne et que j'habitais en Vendée, je le rappelle, et que du coup, j'étais la seule algérienne.
Vous avez été victime de racisme,
de mon collège,
comme
ouais,
ça
ouais, toute ma vie, ouais.
Ah oui.
Toute ma construction adolescente. Toute ma construction adolescente, c'est ça, c'est le racisme, d'ailleurs qui est supérieur au sexisme, puisqu'il y avait plein de meufs, mais il n'y avait pas beaucoup de rebeux. Là, je mets des air quotes, ça ne se voit pas à la radio, mais je mets des guillemets.
Elle met des guillemets partout.
Voilà. Ouais. et du coup, ouais, je sentais que j'étais à cette intersection-là et que je ne pouvais pas m'en sortir de toute façon, parce que j'étais de toute façon une meuf rebeu et que j'allais vivre des violences. Et du coup, je pense, par espèce de réflexe de protection, je ne me suis pas laisser être une meuf, parce que de toute façon, être algérienne, je pouvais pas le cacher ou le mettre ailleurs, donc être une meuf, je pouvais le cacher, et c'est une réflexion que là, je suis en train d'avoir, et en même temps que je te le dis, donc c'est très intéressant.
Mais vous vous cachiez, vous ?
Voilà, c'est ça que j'allais dire.
Parce que vous étiez dans le refus du féminin, vous mettiez des vêtements où on ne voyait pas trop.
Pas du tout.
D'accord.
Ouais, j'étais hyper tomboy, je mettais que des joggings, je mettais que des trucs larges, j'attachais mes cheveux serrés, je mettais pas de maquillage, enfin très peu. Et j'étais hyper tomboy au point que ma mère se désespérait qu'un jour je devienne féminine, ce que je trouve hilarant au vu de ma féminité aujourd'hui qui est hyper exacerbée, tu vois.
Oui, donc il y a un moment où ça a changé ensuite.
Après. Ça a changé quand j'ai découvert mon orientation sexuelle. Et c'est ça qui est drôle.
On va en parler tout à l'heure. Et à cette époque, justement, où vous êtes adolescente, donc, est-ce que vous vous souvenez de figures un peu identificatoires, justement, d'un féminin ou d'un masculin qui vous plaisait à l'époque, par exemple, dans la pop culture ou dans le cinéma? Ou est-ce qu'il y avait des actrices, des chanteuses, ou des acteurs, des chanteurs qui vous plaisaient, par exemple?
Bah non, justement. Il n'y avait rien du tout. Je m'identifiais à rien, je ne me retrouvais pas, je ne me trouvais pas représentée. Et il n'y avait rien qui me plaisait ou qui me parlait, à part le hip-hop hardcore. J'écoutais Sniper, j'écoutais La Funky Family, j'écoutais NTM, j'écoutais Skyrock parce que Skyrock c'était bien. À l'époque.
Et ça vous plaisait justement la virilité qui était véhiculée dans cette musique-là, à cette époque-là
ou... Alors, pas avec cette lecture-là, mais ce qui me plaisait, c'était la rage.
Ouais.
Ouais, j'étais très 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 en colère. Moi, j'ai grandi très en colère. Et cette expression de rage et de colère mêlée à une verve quand même qui était pour moi très léchée, parce que je trouve que le rap français des années 90, il est littérairement parlant très très intéressant, très pointu et très bien écrit, et ça m'a énormément inspirée pour plein de choses. Bah, c'est quelque chose qui me parlait, et c'est le seul truc qui me parlait, c'est la musique. Visuellement, il n'y avait pas grand-chose. Je rappelle que dans les années 90, nous n'avions pas Internet. Nous n'avions pas de smartphone. Mon premier téléphone, je crois que je l'ai eu genre en troisième, et c'était un Nokia 3310. Donc on pouvait envoyer des textos, et encore, ils étaient payants. Donc voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître nécessairement. Donc il n'y avait pas ces possibilités d'identification qu'il y a aujourd'hui, et qui sont une des raisons qui motivent mon travail d'ailleurs, c'est de créer ces représentations-là. Parce que de toute façon, si nous, en tant que minorité, minorisée, on ne les crée pas, il n'y a personne qui va les créer pour nous. Et c'est aussi pour ça que je fais tout ce taf militant, c'est pour que ça puisse parler et pour qu'on puisse être représenté en fait.
Dans le genre de...
Harry Debé.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours en compagnie et dans le genre de la danseuse, chorégraphe, militante, queer... figure emblématique de la scène voguing, walking parisienne, Harry Debé, voilà, c'est un peu long. On va parler de danse, de culture queer, de tout ça ce soir, mais avant, on écoute un peu de musique, c'est encore un titre qu'elle a choisi pour nous. Alors, je vais mal le prononcer, Harry. Alors, j'ai adoré cette chanson, c'est Sheikha Rimiti.
Sheikha Rimiti.
Merci. Et le titre de la chanson ?
Noir.
Voilà, on écoute ça.
انا وغزالي في الجبل الله قطع النوار
Shira Rimiti sur Nova. Alors Harry Debey, pourquoi ce choix ?
Parce que Shira Rimiti, c'est une de mes icônes queer, noraf, punk, avant-gardiste préférées et que j'ai découvertes sur le tard justement parce que enfant de la diaspora, le cul entre deux chaises, le cul entre deux bleds, c'est que tardivement qu'on se retrouve et Shira Rimiti, c'est vraiment une de mes découvertes pas récentes, ça a quelques années quand même, mais à laquelle j'ai pu m'identifier justement.
Alors, on vous a laissé un petit peu à l'adolescence. Après, vous avez fait des études, pas mal d'études, hein, d'ailleurs. Je passe un peu vite. Et puis, vous êtes allé à Sciences Po, vous avez fait des gender studies. Mm-hmm. Alors, si j'ai bien lu dans les interviews, vous aviez un mec, vous aviez un chat. Et puis, vous avez rencontré une femme à Sciences Po. Et alors là, ça a été un espèce de basculement intime et politique.
Exactement.
C'est pour ça que j'en parle. Voilà, ça a été quoi ce coming out ? Qu'est-ce que ça a représenté ?
Effectivement, c'était exactement ce qui s'est passé. Alors, elle me tuerait si elle entendait que je parlais d'elle en tant qu'une femme. Mais ouais, j'ai rencontré, j'ai rencontré cette personne qui m'a complètement bousculée intimement et politiquement, effectivement, parce que elle était Gwyn radicale, squatteuse, vénère, féministe, hardcore, etc., etc. Ce que je suis devenue par mimétisme, parce que nous, les Gwyn, on fonctionne beaucoup par mimétisme. Et du coup, elle m'a happée dans son tourbillon. Et en plus d'avoir une relation avec elle, pendant 3 ans, bah, j'ai aussi évolué dans tous ces milieux qui sont devenus les miens. Et c'est pour ça que ce coming out, il a été pas seulement d'identité sexuelle ou d'orientation sexuelle, mais il a été comme une retrouvaille avec moi-même. C'est-à-dire que enfin, j'avais l'impression que les choses elles faisaient sens. Enfin, c'est hyper cheesy de le dire comme ça, mais c'est le cas parce que mon féminisme, qui était déjà très présent, comme ce que je te disais tout à l'heure, pouvait s'exprimer avec des mots, des verbalisations, des formulations, et trouvait aussi une extériorité qu'il n'avait pas avant dans mon militantisme, et dans un militantisme qui était d'un coup tout de suite radical. Et ça m'a fait vachement de bien, ça a apaisé beaucoup de mes colères, ça en a créé d'autres aussi, parce que je trouve que plus on se conscientise, plus on voit les choses, et plus on voit les choses, et plus on est en colère, et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Quand j'ai découvert toutes les théories du féminisme noir afro-féministe, de l'intersectionnalité et ensuite des féminismes musulmans et islamiques, etc. Et toutes les théories queer et le mélange de toutes ces choses-là, c'est clair que c'était vraiment comme si d'un coup, tout ce que moi j'avais vécu à travers mes identités, toutes mes identités, devenait verbalisable. Et je trouve qu'avec les mots, on peut lutter, avec les mots, on peut se conscientiser et du coup, on peut construire de la lutte, de l'activisme et aussi soi-même. Et c'est ça que ça a créé, en fait, ma rencontre avec cette personne. Alors, on ne se parle plus aujourd'hui et c'est dommage parce que j'aimerais bien lui dire à quel point je suis reconnaissante. Ouais, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce qu'elle est hyper fondatrice. Toutes les portes qu'elle m'a ouvertes sont hyper fondatrices. Et c'est important de le dire aussi parce qu'on a l'impression, je ne sais pas, que les gens se construisent en un jour et que c'est facile d'avoir accès à toutes ces choses-là alors que c'est du putain de travail, c'est plein d'arrachements, c'est plein de trucs hyper difficiles et plein de sacrifices aussi. Enfin, moi, j'ai perdu plein de gens, notamment mes parents pendant des années parce qu'ils n'acceptaient pas ces choix de vie, mon père surtout. Et là, c'est clair que quand on regarde, je sais pas, ma relation avec mon père ou mes réseaux sociaux, on a l'impression que la vie, elle a toujours été facile et... que je me suis toujours acceptée, etc. Mais on regarde un parcours de 10 ans de travail, quoi.
Et alors, c'est dans ces années-là, c'est en 2011, je crois, vous faites un voyage à San Francisco.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est avec cette copine ou enfin,
avec cette copine.
Et alors là, vous tombez sur un documentaire qui va être un peu un choc et qui va vous introduire à une culture voilà, qui va changer un petit peu pas mal de choses dans votre vie. On écoute un extrait.
You have space to do all that you intend to. Now, the categories are... Butch Queen, 1 through 17, and for the girls, 18 through 30. As far as all of y'all not walking, please realize that we all, at one time or another, have lusted to walk a ballroom floor. So give the patrons and the contestants, you know, a round of applause for nerve. Because with your vicious motherfuckers, it do take nerves. Believe me. We're not going to be shady, just fierce.
Those balls are more or less like our fantasy of being a superstar, you know, like the Oscars or whatever, or being on a runway as a model. You know, a lot of those kids that are in the balls, they don't have two of nothing. Some of them don't even eat. They come to balls starving, and they sleep in under 21, or they sleep on the pier.
Alors, Harry Debé, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'on vient d'entendre? C'est un extrait donc de...
Paris is Burning, oui, qui est le film qui...
Le documentaire de Jenny Livingstone, ouais. De 1991, en fait.
Exactement. Qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et dans la vie de plein de gens aussi, je pense.
C'est j'avais... un documentaire sur la scène ballroom, ouais. New-yorkaise de Harlem. Elle rencontre certains de ses membres à partir du 1983. Et en fait, ensuite, elle va les filmer pendant 6-7 ans. Et là, on entendait, par exemple, parler un des membres éminents qui s'appelle...
Pepper LaBeja.
Voilà.
Ouais.
Et alors, qu'est-ce que ça représentait pour vous, ça? Je crois que ça a été un choc dans votre vie.
Ça a été un gros choc, surtout que je n'avais pas du tout envie d'y aller parce que moi, je ne suis pas du tout cinéphile. Donc, quand mon ex, elle m'a proposé d'aller voir ce film donc, au festival auquel elle a bossé, le Frameline Film Festival à San Francisco. Bon, j'en avais un peu rien à foutre et j'avais pas du tout envie d'y aller. Elle m'a dit, si, viens, je pense que ça va te plaire. Et once again, she was right. C'était une énorme claque. Alors, je parlais pas du tout aussi bien anglais que je parle maintenant, à savoir, je parlais pas du tout cet argot, ce slang qu'on utilise beaucoup dans la ballroom. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas comprises. Et il m'a fallu beaucoup de temps de relecture et de revisionnage de ce film pour comprendre plein de choses. Et c'est un film que je regarde encore très souvent. Et j'ai eu le sentiment, d'un coup, d'assister à la possibilité d'un militantisme qui me ressemblait, à savoir hyper flamboyant, hyper fierce, du coup, et en mouvement, surtout. Parce que ce qui me fatiguait, je pense, avec d'un côté mon militantisme et mon activisme radical, ou d'un côté mon intellect, disons, puisque voilà, je faisais des études de gender studies à cette époque-là, et du coup, bah, j'écrivais, je faisais de la recherche, je montais des ateliers, je lisais plein de trucs, etc. Ce que je trouvais limité, c'était... qu'il n'y avait pas d'incarnation de cette politisation-là et de cette conscientisation-là. C'est-à-dire que oui, les manifs, ça me parlait, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et écrire ou lire, ça me parlait, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose aussi. Et dans la ballroom, j'ai eu le sentiment que c'était une politisation intrinsèque et en mouvement, puisqu'elle s'exprime à travers la danse, elle s'exprime à travers le défilé, à travers les outfits, les tenues.
Les stéréotypes de genre aussi, il y a un jeu, puisque donc,
bien sûr.
Je ne connaîtrais pas du tout, les participants se draguent et puis dansent et vont réinterpréter certaines catégories qu'on va leur demander d'interpréter, qui sont des stéréotypes de genre en fait, et ils vont donner une interprétation, ils vont être jugés sur la pertinence, le délire de leur interprétation.
Exactement.
Vous pouvez citer quelques exemples de catégories, par exemple.
Ouais, et c'est d'ailleurs, c'est pas que des catégories de genre, c'est aussi des catégories de classe.
Exactement.
Et des catégories de race. Et c'est ça que je trouvais incroyable.
Ça entremêle tout
voilà.
Ça.
J'avais l'impression d'être le témoin de l'incarnation suprême de l'intersectionnalité, qui était une théorie que j'étudiais seulement et que je vivais, bien entendu, moi, dans mon corps, dans mon âme. Mais
c'est-à-dire le fait d'être soumis à plusieurs types de domination. Voilà, une personne est soumise.
Qui se croisent.
Exactement.
Et qui n'agissent pas en parallèle les unes avec les autres, pour faire un très gros résumé de l'intersectionnalité. Mais ouais, du coup, par exemple, les catégories, c'est cadre exécutif, sachant que
schoolboy.
Ouais, ce qu'on sous-entend par cadre exécutif, c'est que t'es blanc, t'es hétéro et t'es riche. Alors que les personnes qui performaient ces catégories et qui les performent toujours, puisque ça existe et c'est alive and well, bah, c'est des personnes noires, queer et pour la plupart précaires, pauvres. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une force politique énorme à performer ces catégories de classe, de genre et de race et qui prouve justement que tout ça n'est que performance, finalement.
Est-ce que c'est suite à la découverte de cette sous-culture-là, cette scène-là, que vous avez décidé de devenir danseuse ou parce que c'est une envie que vous aviez depuis très longtemps.
Ouais. Ouais, ça l'a réveillé, clairement. Ça l'a réveillé. En fait, c'est qu'à un moment, quand je suis rentrée en France, ça m'a tellement obsédée, ce film, et l'idée que cette culture puisse exister quelque part, que j'ai commencé à venir traîner à Paris, parce que j'habitais à Toulouse. J'ai commencé à venir traîner à Paris et j'ai commencé à chercher. Donc, à chercher, bah, je connaissais personne à Paris. Moi, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. Et voilà, j'ai cherché, bah, je sais pas, sur Internet, j'ai cherché sur Facebook s'il y avait des soirées gays, off-color, comme on dirait aujourd'hui. Et j'ai trouvé et j'ai vu des gens voguer, j'ai reconnu le voguing et du coup j'ai commencé à graviter autour de ces personnes-là et c'est ces personnes-là qui m'ont fait entrer dans cette culture-là. Mais clairement, c'est pour ça que j'ai déménagé à Paris et aussi parce que je me suis dit que j'ai commencé à 25 ans à danser et je me suis dit à 25 ans, si t'essayes pas maintenant d'être danseuse, qui était un petit peu mon rêve de gamine, t'essaieras jamais. Donc du coup, j'ai tout abandonné, j'ai passé des auditions pour une école de danse à Paris, j'ai été prise.
C'est fait de la danse hip-hop.
Ouais, j'ai fait 2 ans de danse hip-hop. C'était pas vraiment une réussite, mais ça m'a lancé, quoi, disons.
Et ensuite, vous êtes consacrée au walking en particulier.
Ouais.
Vous pouvez expliquer ce que c'est le walking?
Ouais, le walking, c'est la cousine du voguing, disons. C'est antérieur au voguing, c'est les années 60, la côte ouest, la Californie. Et c'est aussi une danse politique en soi, dans la mesure où c'était la danse de la communauté gay, noire et latinex, qui se retrouvait dans les clubs, puisque c'était un peu le seul endroit de survie, c'était le seul endroit de respiration, de résistance, de résilience à une société hyper homophobe, hyper raciste. Et le club était vraiment cet espace d'échange et de création aussi communautaire qui passait par la pratique artistique de la danse, avec une fusion de toutes les danses qui étaient pratiquées par les danseurs de l'époque, donc c'était des danseurs racisés, donc il y avait pas mal de danse afro, pas mal de danse latine, et aussi pas mal de danse jazz, avec beaucoup d'attitudes.
C'est une danse très narrative aussi.
Hyper
narrative.
Il y a
beaucoup de mouvements très déliés.
Ouais.
Enfin, moi je suis absolument nulle, mais c'est une danse avec
non, tu t'en
des mouvements
bien,
très particuliers. Ouais, je suis nulle une fois, parce qu'il faut dire que Harry Debay fait des cours, c'était à la Folie, à Paris, ouais. En fait, et voilà, j'y suis allée une fois, il compte fait.
Ouais, c'est vrai, j'atteste. Mais c'est une danse aussi narrative, parce que c'est une danse pareille de performance en fait, j'ai envie d'être une diva du cinéma hollywoodien et du coup je performe cette envie-là puisque de toute façon dans la vie réelle je n'aurai jamais accès à cette case sociale, sociologique et du coup il y a toute cette performance de la diva ou de l'attitude ou de ce qu'on veut d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être la diva quand on voit qu'on peut être plein de choses différentes et tout ça avec un sous-texte hyper politique puisque le walking à la base s'appelait le punking, sachant que punk, c'est le mot qui veut dire PD en anglais étymologiquement, avec un retournement du stigmate, comme on dit en sociologie, ce qui est l'utilisation d'une insulte pour en faire une identité forte et une identité de puissance et pas une identité en creux ou connotée négativement. Et ça, les communautés minorisées le font très très bien. Enfin, c'est la même chose avec le mot queer qui était une insulte. C'est la même chose avec le N-word qui était bien entendu une insulte aux États-Unis et en anglais de façon générale. Et ça a été pareil avec punking puis whacking, puisque whack en anglais ça veut dire c'est nul. Et aujourd'hui, c'est le nom d'une danse.
On écoute Mike Q, Let It All Out. C'est un artiste un peu fer de lance de la culture ballroom sur
ça,
la côte
ballroom,
est.
Ça, c'est ballroom, ouais.
On écoute ça sur Nova. Let it all, let it all, let it all out. Let it all. 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 Let it all out. Let it all. 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 Let it all out. Let it all. Let it all out. 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 Mike Q sur Nova, on est toujours avec Harry Debé, danseuse, chorégraphe, figure de la scène ballroom, voguing parisienne. Harry Debé, j'avais envie justement qu'on reparle d'une conférence dansée que vous faites. J'ai eu l'occasion d'en voir un bout, puis vous aviez fait avec d'autres personnes à Loud & Proud, vous étiez trois, qui s'appelle « Décoloniser le dance floor ». Donc c'est une conférence lors de laquelle vous parlez, qui est assez interactive avec le public, et lors de laquelle aussi vous performez certains mouvements de danse.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire « Décoloniser le dance floor » ? Pourquoi ? C'est quoi la nécessité de ça ?
Bah justement, comme je te disais tout à l'heure, dans mon militantisme, au bout d'un moment, je me faisais chier. Dans mon parcours académique, je m'ennuyais aussi. Et il s'est passé la même chose quand j'ai commencé à danser. C'est pas que je me suis ennuyée dans ma danse, mais c'est que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc tout mon background militant et universitaire me manquait, en fait. En tout cas, cette envie de faire de l'activisme à travers ma pratique, quelle qu'elle soit, finalement, ça me manquait. Du coup, je me suis posée, j'ai brainstormé et j'ai trouvé cette espèce de concept de performance qui est la conférence dansée, qui me semblait être très adapté à mon parcours et à mon discours, qui est du coup une conférence où je danse ce que je raconte et je raconte ce que je danse. C'est une performance que je fais dans le monde entier depuis 2 ans et demi maintenant et qui a encore des dates à venir, ce que je trouve incroyable. Et décoloniser le dance floor, pourquoi ? Parce que déjà, c'est hyper sexy comme nom et que du coup, tout le monde trouve ça génial et du coup, je me fais booker
c'est
partout.
C'est vendeur, quoi. Ouais.
Voilà. Parce qu'on vit quand même dans un monde capitaliste. Mais ça me semblait intéressant d'utiliser le dance floor, donc la pratique artistique de la danse et l'espace du club, surtout dans une ville comme Paris et dans les grandes villes dans lesquelles je tourne, je danse, je travaille, etc., comme vecteur pour faire passer finalement mes idées et mon message politique, qui est une pensée décoloniale de façon générale et féministe et queer, et d'utiliser la danse qui est quelque chose qui parle à tout le monde, en tout cas aux personnes valides, pour s'en saisir.
Pour prendre un exemple assez concret, assez facile pour nos auditeurs, c'est par exemple quand on a vu Miley Cyrus qui twerkait, par exemple. Voilà, alors c'est quoi justement décoloniser ça ? Ça veut dire quoi ? C'est expliquer l'origine de cette danse-là, expliquer qu'elle vient d'ailleurs, elle a un autre sens, elle est performée par d'autres gens, enfin... En quoi ça consiste ?
Alors, décoloniser, je me suis amusée, entre guillemets, à faire l'exercice intellectuel de trouver, je crois, j'ai un minimum de 40 synonymes pour décoloniser, puisqu'on me pose toujours la question, mais d'accord, on a compris, mais comment on décolonise ? Alors, effectivement, pour moi, ça passe en premier lieu par raconter l'histoire. Du coup, passer par raconter l'histoire de ces danses-là, c'est raconter l'histoire de ces communautés. Et en racontant l'histoire de ces communautés, on raconte l'histoire de leur struggle, en fait. Et que du coup, tout ça, quand on fait ce fil rouge-là, au final, on arrive à avoir un discours qui est à la fois historique, à la fois politique, à la fois sociologique, et qui fait qu'on peut adresser les issues. Je suis désolée, mon franglais, c'est insupportable, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, Mia Fry, realness. On peut adresser les obstacles et les luttes d'aujourd'hui en étudiant l'histoire de qui nous précède, des communautés qui nous précèdent, et les mécanismes d'appropriation culturelle par exemple ne sont lisibles qu'à l'aune de l'histoire racontée, et c'est ça un petit peu le fil rouge de Décoloniser le Dancefloor, parce que moi j'estime profondément que l'appropriation culturelle, par exemple, est un continuum colonial et qu'aujourd'hui, on ne peut plus coloniser de façon décomplexée les territoires, même si c'est encore le cas, mais on peut coloniser les cultures, on peut coloniser les esprits. Et ça, c'est le processus d'appropriation culturelle. Et il est dangereux dans la mesure où il met en danger les communautés concernées. Et c'est à ça qu'il faut faire attention en décolonisant, donc en racontant l'histoire, en écoutant les personnes principalement concernées, en les mettant au centre, en désoccidentalisant notre regard, en se décentrant, en se déseuropéanisant, etc.
Il y a une chose qui est intéressante aussi justement à propos du regard. Vous dites, il faut questionner le regard du regardant. Qui regarde, c'est important.
Ouais. Alors le regard du regardant, c'est quelque chose qui m'a assez obsédée, plutôt dans mon parcours universitaire et ensuite bien entendu dans mon parcours artistique de danseuse, parce que je trouve qu'en sociologie, de façon générale, on étudie les regarder. Et on étudie très peu les regardants, donc on étudie par exemple beaucoup les dominés, on n'étudie pas les dominants. Sauf que sans dominant, il n'y a pas dominé. De la même façon, je fais toujours cette analogie qui est un petit peu brutale, et je suis désolée, mais sans violeur, il n'y a pas de viol. Il faut aussi regarder les dominants, il faut regarder les privilégiés, il faut regarder ceux qui font que les structures de domination dans lesquelles on évolue sont pérennes et pérennisées. Et c'est cette espèce de retournement de regard qui, je trouve, est très nécessaire à l'avancée des luttes qui sont importantes pour moi, que j'essaye de faire à travers ces performances-là et à travers mon discours de façon générale et transversale, quoi.
Oui, parce que vous dites deux personnes qui vont danser à deux endroits différents, regardées par deux personnes différentes, ça va pas produire le même sens du tout.
Pas du tout. Ouais. Ouais. Les corps dont je parle, et mon corps aussi, parce que voilà, je parle pas évidemment que d'autres personnes, je parle beaucoup de moi, parce que c'est mon parcours et c'est ce que je représente.
Il produit un certain sens, votre corps à vous, voilà, avec ce qu'il est, avec les identités que vous avez.
Ce qu'il transporte, et ce qu'il a vécu, et ce qu'il a traversé, et les identités que j'ai, et comment je les mets en scène, finalement, parce qu'il y a beaucoup de mise en scène, bien entendu. Il est politique, et la façon dont il est regardé produit du sens différemment. Donc c'est de ça dont je me saisis, en fait, pour parler de mes luttes politiques. Ouais.
Ouais, dans une des vidéos que je regardais de vous hier sur Internet, vous dites des choses très fortes. Vous dites « si je ne peux pas danser, je ne peux pas vivre ». C'est une réappropriation de mon corps qui a vécu beaucoup de choses, des déplacements, une guerre, de l'exil, des coups, des viols. Du coup, c'est très organique de se réapproprier ce corps qu'on a voulu détacher de moi.
Ouais. Ouais, c'est effectivement, c'est chargé, hein, voilà.
Oh oui, mais enfin, non, mais c'est puissant.
Ouais, mais c'est clair que je me suis rendu compte aussi dans mon apprentissage du féminisme que la libération de la parole était hyper nécessaire et que en tant que personne AFAB, donc assignée female à la naissance, on est construite à ne pas parler et à ne pas raconter les choses difficiles qu'on a vécues. Et c'est très très important pour moi d'ouvrir cette parole-là, puisque c'est assez libérateur, de la même façon que ça me permet de reconnecter avec mon corps, puisqu'on nous apprend qu'on n'est pas notre corps. Le corps, ce serait comme quelque chose un peu d'extérieur, qu'il faut modeler, qu'il faut façonner. D'où ma phrase hyper drama, parce que bien sûr, je suis hyper drama, de dire que si je peux pas danser, je peux pas vivre, parce que cette reprise de pouvoir et de contrôle de mes mouvements à travers la danse, elle est hyper fondamentale dans mon rapport à mon corps et dans ma reconnexion à mon corps et du coup à moi-même, quoi.
Allez, on écoute un peu de musique. Kazé, Rêve illimité sur Nova.
Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités, éclater les déblats. Terre et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté.
éviter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau. Je fais des 100 pas mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé, trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie où est frappé l'épopée des impies accros à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère dans les remparts et sous les regards des langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part, normal je me perds. Marre du crépit, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper. Flipper de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité.
Voilà, c'était Kazé. Rêve illimité, c'est une artiste que tu aimes beaucoup.
Kazé, c'est ma femme. Elle le sait pas encore, mais ça fait quelques années qu'on est mariés. Et ouais, ça, c'est plutôt solitude existentielle, c'est Kazé.
Alors, Harry Debé, quel rapport vous entretenez avec votre physique ?
Bah alors, si tu regardes mon Instagram, genre, it looks like I'm fine, mais bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est important pour moi de faire du body positive en permanence et tous les jours parce que j'ai un corps qui n'est pas hyper normé.
La danse, ça a été justement un univers très normé que vous avez découvert quand vous êtes arrivé. Enfin, vous disiez plusieurs fois quand vous avez fait des remarques parce que vous aviez perdu du poids à un moment et qu'on vous disait bah « Bon, vous êtes danseuse, pourtant vous n'êtes pas très mince », des choses comme ça. Enfin, c'est un univers très normé.
Ouais, c'est hyper normé et c'est hyper normé. Ouais. La France, c'est très très en retard quand même. Alors de façon générale, ça, c'est ma punchline générale, c'est que la France est en retard. Mais pour les normes de corps aussi, c'est-à-dire que si t'es grosse ou un peu curvy, on va jamais te croire immédiatement quand tu dis que t'es danseuse. Et c'est super pénible. Du coup, au bout d'un moment, effectivement, j'ai beau être féministe, hardcore, vénère, nanana, ça m'a saoulée, donc j'ai perdu 25 kilos. Et je me suis perdue complètement. Je me ressemblais plus du tout. Et je le dis maintenant parce que j'ai le recul de le voir. C'est-à-dire que même quand je me vois en photo cette période-là, je ne me vois pas. Je me reconnais pas du tout. Et ouais, c'est clair que ça m'a atteinte. Ça m'est rentré dans la tête et j'ai essayé de me normaliser parce que c'était trop lourd à porter d'être autant hors norme. Enfin, c'est fatigant. Tu vois, genre, je suis vraiment hybride dans tout et je rentre dans aucune case. Alors, c'est fun. Et je suis une personne très forte, mais parfois c'est vraiment fatigant.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire ?
Ma bouche, bien entendu. Ma bouche et mon cerveau, non, je sais pas. Je suis pas très dragueuse en fait, et je me fais pas draguer d'ailleurs. J'aimerais bien me faire draguer plus. Non, je sais pas. Ouais, je fais pas trop de. J'ai fait beaucoup quoi, disons, pendant ma vingtaine. J'ai fait beaucoup.
Qu'est-ce qui vous plaît chez une femme ?
Là, pour moi, la catégorie de femme, elle n'est pas opérante et elle n'est pas réelle. Donc, du coup, je regarde pas les femmes. Femmes,
que vous
ça ne veut rien dire pour moi. Mes amoureux et amoureuses et amants et amantes sont dans un spectre de genre qui est très vaste, à part les mecs cis. Ça, j'ai arrêté. Je sais pas, j'ai besoin qu'on s'entende bien, j'ai besoin qu'on puisse se stimuler intellectuellement, parce que bon, comme tu l'as compris, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, donc j'ai besoin qu'il y ait un petit peu de répondant. j'ai besoin qu'on puisse construire ensemble, qu'on puisse réfléchir ensemble, j'ai besoin, je pense, mon critère premier et principal, non négociable, c'est que la personne soit politisée comme moi. Et qu'on ait les mêmes points de vue politiques parce que j'ai trop travaillé pour en arriver là et j'ai dû couper plein de gens et j'ai plus le temps en fait d'être avec des partenaires disons qui ont pas les mêmes points de vue politiques que les miens quoi. Ça c'est ma condition principale même pour baiser. Voilà, sinon c'est pas poste.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme ?
Oh, non, les pauvres. Non, franchement, les pauvres, non.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme Alors même si cette catégorie, elle est un peu... Est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes ?
C'est dur comme question. Déjà, je ne me considère pas trop comme femme. Enfin, j'ai l'impression d'être moitié être un jeune garçon adolescent et une vieille âme de 147 ans, tu vois. Donc, du coup, je ne sais pas si cette identité de genre, elle existe. Mais s'il y en a une à laquelle je m'identifierais, c'est celle-là. Non. Je pense qu'il y a quelques années, je t'aurais répondu « Ouais, j'aurais bien aimé être différente ». Mais là, je crois que j'arrive à moi-même et ça fait pas de mal.
Eh ben merci, ce sera notre mot de la fin. Cette émission a été réalisée par Benoît Thuot. On se retrouve dans 15 jours avec un autre invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Merci Géraldine.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.